franceinter.fr.
Aujourd'hui,
René Char,
on bâcle des livres comme on édifie des maisons à la diable, avec un tel manque de goût, un tel mépris des règles pourtant éprouvées de l'harmonie architectonique et de la typographie, que c'est à peine si le regard ose encore interroger, les mains s'avancer pour saisir un objet désormais sans prestige.
Ça peut pas faire de mal.
Je dis qu'un livre, dans sa conception, peut être révolutionnaire, à condition toutefois qu'il demeure le lit pur et vivant dans lequel repose le corps endormi du poème, qu'il soit le champ sous le libre horizon où nous paraîtrons avec lui sitôt que notre amour l'aura éveillé.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Nous avons en nous d'immenses étendues que nous n'arriverons jamais à talonner. Mais elles sont utiles à l'âpreté de nos climats, propices à notre éveil comme à nos perditions. Comment rejeter dans les ténèbres notre cœur antérieur et son droit de retour? La poésie est ce fruit que nous serrons, mûri avec liesse dans notre main, au même moment qu'il nous apparaît d'avenir incertain sur la tige givrée dans le calice de la fleur. Poésie, unique montée des hommes, que le soleil des morts ne peut assombrir. La seule signature au bas de la vie blanche, c'est elle qui la dessine. C'était un extrait de La Parole en Archipel, l'un des nombreux recueils poétiques de René Char. D'abord surréaliste, puis résistant, ami de Georges Braque, Picasso, Nicolas de Staël ou encore Albert Camus, Char a traversé le XXe siècle avec la ferme conviction que la poésie pouvait sauver les hommes. Alors il ne va pas juste écrire des poèmes, il va écrire la vie, nos joies, nos peines et toutes nos sensations les plus inexprimables. Solaire, parfois orageuse, mais toujours pleine d'allégresse, la plume de René Char oscille entre fureur et mystère, avec un seul but. Le poète, dit-il, doit laisser des traces sur son passage, non des preuves. Seules les traces font rêver. Ce soir, faisons donc un rêve et découvrons certains des plus beaux textes de cet enfant de Provence qui n'a jamais pu se passer de la lumière du Sud. René Char naît le 14 juin 1907 à Lille-sur-Sorgue, dans le Vaucluse, dans la maison familiale des Névons. C'est un garçon plutôt turbulent, qui ne brille pas à l'école et qui aurait même jeté un dictionnaire à la tête d'un de ses professeurs. Son école, à lui, ce sont les livres qu'il ne quitte jamais, notamment lorsqu'il débute des études de commerce à Marseille en 1925. Char manque les cours, traîne sur le Vieux-Port, pratique le rugby et lit avec ardeur le Marquis de Sade. Après son service militaire à Nîmes, il commence à collaborer dans plusieurs revues littéraires et publie son premier recueil de poèmes, Arsenal, en 1929. Il en envoie de suite un exemplaire à Paul Éluard, dont il vient de lire « Capitale de la douleur ». Éluard le félicite et vient lui rendre visite. Les deux hommes qui ont le même goût de la révolte et des femmes vont devenir de très bons amis. Voici deux poèmes extraits de ce recueil de jeunesse. La torche du prodigue. Brûler l'enclos en quarantaine. Toi, nuage, passe devant. Nuage de résistance, nuage des cavernes, entraîneur d'hypnose. Bel édifice et les pressentiments. J'écoute marcher dans mes jambes, la mer morte vague par-dessus tête, enfant, la jetée promenade sauvage, homme, l'illusion imitée, des yeux purs dans les bois, cherchent en pleurant la tête habitable. En novembre 1929, Char rencontre Aragon, Breton et Crevel à Paris avant d'adhérer officiellement au mouvement surréaliste. Ces années sont celles des premiers engagements. Il prend notamment la défense de Violette Nozière, accusée de parricide, mais aussi de Louise Buñuel, attaquée pour son film « L'âge d'or ». Petit à petit, le poète se fait un nom, côtoie Kandinsky et Man Ray et se passionne pour l'Outréamont et les présocratiques. En 1932, il épouse Georgette. Dans la lettre qu'il envoie au père de sa fiancée, il écrit « Je l'aime. Ici finit le monde. Ici commence le monde. » Puis tout va très vite. Il décide de rompre avec les surréalistes, écrit « Le marteau sans maître » et surtout « Moulin premier », un ouvrage à l'esprit cocasse. On découvre un poète provocateur qui veut réinventer le langage et qui s'amuse à lister les aphorismes souvent inspirés par Victor Hugo. Commence à croire que la nuit t'attend toujours. La bêtise aime à gouverner, lui a arraché ses chances. Nous débuterons en ouvrant le feu sur ces villages du bon sens. La poésie est pourrie d'épileurs de chenilles, de rétameurs d'échos, de laitiers caressants, de minaudiers fourbus, de visages qui trafiquent du sacré, d'acteurs de fétides métaphores, etc. Il serait sain d'incinérer sans retard ces artistes. Les boueurs de poésie sont en général privés du sentiment de la poésie, inaptes à percer les voies de son action. Il faut être l'homme de la pluie et l'enfant du beau temps. La poésie pour Char est comme un cinquième élément qui sème ses planètes dans le ciel intérieur de l'homme. Voici « Comme une présence », toujours extrait de Moulin Premier. Tu es pressé d'écrire comme si tu étais en retard sur la vie. S'il en est ainsi, fais cortège à tes sources. Hâte-toi, hâte-toi de transmettre ta part de merveilleux, de rébellion, de bienfaisance. Effectivement, tu es en retard sur la vie. La vie inexprimable, la seule en fin de compte à laquelle tu acceptes de t'unir. Celle qui t'est refusée chaque jour par les êtres et par les choses, dont tu obtiens péniblement de ci de là quelques fragments décharnés au bout de combats sans merci. Hors d'elle, tout n'est qu'agonie soumise, fin grossière. Si tu rencontres la mort durant ton labeur, reçois-la comme la nuque en sueur trouve bon le mouchoir aride en t'inclinant. Si tu veux rire, offre ta soumission, jamais tes armes. Si tu as été créé pour des moments peu communs, modifie-toi, disparais sans regret, au gré de la rigueur suave. Quartier suivant quartier, la liquidation du monde se poursuit, sans interruption, sans égarement, et sème la poussière. Nul ne décèlera votre union.
Redonnez-leur ce qui n'est plus présent à eux. Ils reverront le grain de la moisson s'enfermer dans l'épi et s'agiter sur l'herbe. Apprenez-leur de la chute à l'essor, les 12 mois de leur visage. Ils chériront le vide de leur cœur jusqu'au désir suivant. Car rien ne fait naufrage ou ne se plaît aux cendres. Et qui sait voir la terre aboutir à des fruits, point ne l'émeut l'échec, quoi qu'il ait tout perdu.
Le milieu des années 30 est troublé par la guerre d'Espagne et la montée du nazisme. Char regarde tout cela avec colère et fureur. Tous les poèmes qu'il écrit à cette époque parlent de ces événements. Mobilisé à Nîmes puis affecté en Alsace dans le 173e régiment d'artillerie lourde, il est finalement dénoncé en 1940 comme militant d'extrême gauche. Mais avant que la police ne perquisitionne sa maison de Névon, Char a le temps de s'enfuir et part s'installer à Serrest. C'est là qu'il va organiser sa résistance sous le pseudo de Capitaine Alexandre. René Char plonge ainsi dans la vie clandestine. Il appartient à l'armée secrète et effectue des sabotages. Mais il continue aussi d'écrire dans des petits carnets qu'il a depuis détruits. Voici quelques-unes de ses notes. Il y a tout d'abord le poème « Réfractaire, mes camarades », destiné à tous les compagnons de sa section. « Réfractaire, mes camarades, vous vous comptez aujourd'hui nombreux, et chaque jour vous augmente. Toutes les forêts de France qui vous dissimulent s'entr'ouvriront bientôt pour vous laisser passer, vous et votre armée victorieuse, votre armée d'hommes libres. » Augmentez peu à peu, l'ennemi vous redoute, vous ne devez pas les décevoir. Cependant, ne commettez pas l'imprudence de vous offrir à lui. Nous devons rester vivants les derniers et le battre jusqu'au dernier. Réfractaire, rien ne m'inquiète, j'ai confiance en vous. En 1938, il écrit un texte intitulé « L'avant-monde » qui ouvrira le futur recueil « Fureur et mystère » publié après la guerre. Le poète affirme ici l'importance et la nécessité de la création. L'homme fuit l'asphyxie. L'homme dont l'appétit hors de l'imagination se calfeutre sans finir de s'approvisionner se délivrera par les mains, rivière soudainement grossie. L'homme qui s'épointe dans la prémonition, qui déboise son silence intérieur et le répartit en théâtre, ce second, c'est le faiseur de pain. Aux uns la prison et la mort, aux autres la transhumance du verbe. Déborder l'économie de la création, agrandir le sang des gestes, devoir de toute lumière. La première partie de Fureur et mystère a pour titre « Seule demeure ». C'est un recueil que Camus appréciait tout particulièrement. Il déclarait à son propos « Cette poignée de poèmes suffira à faire lever sur notre poésie un vent libre et vierge. Nous respirerions enfin. » Et en effet, à travers ces vers libres, Char invite son lecteur à prendre en main sa vie, à ne pas avoir peur, à prendre des risques. « À l'âge d'homme, j'ai vu s'élever et grandir sur le mur mitoyen de la vie et de la mort une échelle de plus en plus nue, investi d'un pouvoir d'évulsion unique, le rêve. Ces barreaux, à partir d'un certain progrès, ne soutenaient plus les lisses épargnants du sommeil. Après la brouillonne vacance de la profondeur injectée, dont les figures chaotiques servirent de champ à l'inquisition d'hommes bien doués, mais incapables de toiser l'universalité du drame, voici que l'obscurité s'écarte et que vivre devient. Sous la forme d'un âpre ascétisme allégorique, la conquête des pouvoirs extraordinaires dont nous nous sentons profusément traversés, mais que nous n'exprimons qu'incomplètement, faute de loyauté, de discernement cruel et de persévérance. Compagnons pathétiques qui murmurez à peine, allez, la lampe éteinte. Un mystère nouveau chante dans vos os. Développez votre étrangeté légitime. Toujours dans Fureur et mystère, il y a les feuillets d'hypnose, ces notes prises durant les heures sombres de l'occupation, écrites, je cite, « dans la tension, la colère, la peur, l'émulation, le dégoût, la ruse, le recueillement furtif, l'illusion de l'avenir, l'amitié et l'amour. » C'est autour de ce recueil que Char et Camus se rencontrent enfin. Camus lit un jour le manuscrit et décide de le faire paraître dans sa collection chez Gallimard. Char accepte et s'ensuivra une longue correspondance et une profonde amitié. Voici quelques-uns de ses feuillets qui, là encore, ressemblent plus à des aphorismes qu'à des vers. Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats. Nous n'appartenons à personne sinon au point d'or de cette lampe inconnue de nous, inaccessible à nous, qui tient éveillé le courage et le silence. Un homme sans défaut est une montagne sans crevasse, il ne m'intéresse pas. Nous sommes écartelés entre l'avidité de connaître et le désespoir d'avoir connu. L'aiguillon ne renonce pas à sa cuisson et nous à notre espoir. S'il n'y avait pas parfois l'étanchéité de l'ennui, le cœur s'arrêterait de battre. Je n'ai pas peur, j'ai seulement le vertige. Il me faut réduire la distance entre l'ennemi et moi, l'affronter horizontalement. On ne se bat bien que pour les causes qu'on modèle soi-même et avec lesquelles on se brûle en s'identifiant. Agir en primitif et prévoir en stratège. Comment m'entendez-vous ? Je parle de si loin. Nous devons surmonter notre rage et notre dégoût. Nous devons les faire partager afin d'élever et d'élargir notre action comme notre morale. Je n'écrirai pas de poème d'acquiescement. Tiens vis-à-vis des autres ce que tu t'es promis à toi seul. Là est ton contrat. Enfonce-toi dans l'inconnu qui creuse. Oblige-toi à tournoyer. Comment vivre sans inconnu devant soi ? C'est la question que pose Char au début du poème pulvérisé, autre section de Fureur et Mystère. En pleine guerre, l'humanité se désagrège, l'homme perd jusqu'à la poussière de son nom. Le poème doit guider les esprits désespérés, les amener à agir. Char est sans équivoque. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience. Selon lui, il faut refuser toute forme de soumission. Le seul mot d'ordre est le suivant : ne te courbe que pour aimer. Dans le poème « J'habite une douleur », il invite son lecteur à refuser l'agonie. Ne laisse pas le soin de gouverner ton cœur à ces tendresses parentes de l'automne auxquelles elles empruntent sa placide allure et son affable agonie. L'œil est précoce à se plisser, la souffrance connaît peu de mots. Préfère te coucher sans fardeau, tu rêveras du lendemain et ton lit sera léger. Tu rêveras que ta maison n'a plus de vitres, tu es impatient de t'unir au vent qui parcourt une année en une nuit. D'autres chanteront la corporation mélodieuse, les chairs qui ne personnifient plus que la sorcellerie du sablier. Tu condamneras la gratitude qui se répète. Voici maintenant Suzerain. Nous commençons toujours notre vie sur un crépuscule admirable. Tout ce qui nous aidera plus tard à nous dégager de nos déconvenues s'assemble autour de nos premiers pas. La conduite des hommes de mon enfance avait l'apparence d'un sourire du ciel adressé à la charité terrestre. On y saluait le mal comme une incartade du soir. Le passage d'un météore attendrissait. Je me rends compte que l'enfant que je fus, prompt à s'éprendre comme à se blesser, a eu beaucoup de chance. J'ai marché sur le miroir d'une rivière pleine d'anneaux de couleuvres et de danses de papillons. J'ai joué dans des vergers dont la robuste vieillesse donnait des fruits. Je me suis tapi dans des roseaux, sous la garde d'êtres forts comme des chênes et sensibles comme des oiseaux. Autre poème qui nous plonge dans l'enfance du poète, « Premiers instants ». Nous regardions couler devant nous l'eau grandissante. Elle effaçait d'un coup la montagne, se chassant de ses flancs maternels. Ce n'était pas un torrent qui s'offrait à son destin, mais une bête ineffable dont nous devenions la parole et la substance. Elle nous tenait amoureux sur l'arc tout-puissant de son imagination. Quelle intervention eût pu nous contraindre ? La modicité quotidienne avait fui, le sang jeté était rendu à sa chaleur. Adopté par l'ouvert, poncé jusqu'à l'invisible, nous étions une victoire qui ne prendrait jamais fin. Dans ses feuillets d'hypnos, Char se souvient également d'un moment douloureux, le jour où il dut assister à l'exécution d'un camarade résistant. Il aurait pu intervenir, mais il fallait assurer la sécurité des villageois alentour. Il a donc fait le choix de ne rien faire. Le jeune homme s'appelait Roger Bernard. Il a été fusillé par les Allemands le long d'une route, sous les yeux de ses compagnons cachés plus loin. Horrible journée. J'ai assisté, distant de quelques 100 mètres, à l'exécution de B. Je n'avais qu'à presser la détente d'un fusil mitrailleur et il pouvait être sauvé. Nous étions sur les hauteurs dominant ces restes, des armes à faire craquer les buissons et au moins égaux en nombre aux SS. Eux ignorant que nous étions là. Aux yeux qui imploraient partout autour de moi le signal d'ouvrir le feu, j'ai répondu non de la tête. Le soleil de juin glissait un froid polaire dans mes os. Il est tombé comme s'il ne distinguait pas ses bourreaux et si léger, il m'a semblé, que le moindre souffle de vent eût dû le soulever de terre. Je n'ai pas donné le signal parce que ce village devait être épargné à tout prix. Qu'est-ce qu'un village ? Un village pareil à un autre. Peut-être l'a-t-il su, lui, à cet ultime instant. Plus loin, il s'interroge sur l'avenir. Si j'en réchappe, je sais que je devrais rompre avec l'arôme de ces années essentielles, rejeter, non refouler, silencieusement, loin de moi, mon trésor, me reconduire jusqu'au principe du comportement le plus indigent, comme au temps où je me cherchais sans jamais accéder à la prouesse, dans une insatisfaction nue, une connaissance à peine entrevue et une humilité questionneuse.
Nous nous sommes imaginés en 1945 que l'esprit totalitaire avait perdu avec le nazisme sa terreur, ses poisons souterrains et ses fours définitifs. Mais ces excréments sont enfouis dans l'inconscient fertile des hommes. Une espèce d'indifférence colossale à l'égard de la reconnaissance des autres et de leur expression vivante, parallèlement à nous, nous informe qu'il n'y a plus de principes généraux et de morale héréditaire. Un mouvement failli l'a emporté. On vivra en improvisant à ras de son prochain. La faim devenue soif, la soif ne se fait pas nuage. Une intolérance démente nous ceinture. Son cheval de Troie est le mot bonheur. Et je crois cela mortel.
Après un bref passage à Alger en 1944, Char revient en France, et plus précisément à Paris, enfin libéré. Ses poèmes peuvent enfin être publiés, et il en prépare d'autres, qui seront réunis sous le titre « Les Matinaux » et qui recouvrent la période 1947-1949. Son but est clairement affiché dès les premières pages. Ce qu'il veut faire, c'est, je cite, « combattre vaille que vaille la fatalité, ouvrir dans l'aile de la route d'insatiables randonnées, et croire à ce qu'il appelle le petit commencement. » Et pour avoir foi à nouveau en l'avenir, il faut parfois revenir vers la douceur du temps perdu. Et c'est bien sûr l'enfance qu'il convoque dans « Jouvence des Névons », où il revient avec nostalgie sur le lieu où il a grandi, appris à regarder et à rêver. Dans le parc des Névons, ceinturé de prairies, un ruisseau sans talus, un enfant sans amis, nuance leur tristesse et vivent mieux ainsi. Dans le parc des Névons, un rebelle s'est joint au ruisseau, à l'enfant, à leur mirage enfin. Dans le parc des Névons, mortel serait l'été sans la voix d'un grillon qui par instant se tait. Plus loin, dans Qu'ils vivent, René Char parle de son pays, le Sud, déchiré entre le triste souvenir de l'occupation et l'infime espoir de le voir renaître. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux mal habillés sont préférés aux buts lointains. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie. Le verre de fenêtre est négligé, qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles. Beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie. Et entre ces poèmes mélancoliques, on retrouve évidemment ces fameux aphorismes. Ceux des Matinaux sont parmi les plus beaux de toute l'œuvre de Char. Impose ta chance, serre ton bonheur, et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Allez à l'essentiel. N'avez-vous pas besoin de jeunes arbres pour reboiser votre forêt? L'intensité est silencieuse. Imite le moins possible les hommes dans leur énigmatique maladie de faire des nœuds. On ne bâtit multiformément que sur l'erreur. C'est ce qui nous permet de nous supposer, à chaque renouveau, heureux. Nous sommes des passants appliqués à passer, donc à jeter le trouble, à infliger notre chaleur, à dire notre exubérance. Voilà pourquoi nous intervenons. Voilà pourquoi nous sommes intempestifs et insolites. Qu'est-ce qui brille encore au-dessus de nous? Le reflet mourant de notre audace. Lorsque nous l'aurons parcouru, nous n'affligerons plus la terre, nous nous regarderons.
Albert Camus.
Depuis Apollinaire, il n'y a pas eu dans la poésie française une révolution comparable à celle qu'a accomplie René Char.
Nous sommes en 1960. Albert Camus est mort dans un accident de voiture. René Char est inconsolable. Il travaille sur son prochain recueil, certainement son plus célèbre aujourd'hui, La parole en archipel. Et il consacre quelques lignes à son ami disparu. L'éternité à Lourmarin. Il n'y a plus de ligne droite, ni de route éclairée avec un être qui nous a quittés. Où s'étourdit notre affection? Cerne après cerne, s'il approche, c'est pour aussitôt s'enfuir. Son visage parfois vient s'appliquer contre le nôtre, ne produisant qu'un éclair glacé. Le jour qui allongeait le bonheur entre lui et nous n'est nulle part. Toutes les parties presque excessives d'une présence se sont d'un coup disloquées. Routine de notre vigilance. Pourtant, cet être supprimé se tient dans quelque chose de rigide, de désert, d'essentiel en nous, où nos millénaires ensembles font juste l'épaisseur d'une paupière tirée.
Pour mon père, c'était...
Catherine Camus.
C'était quelqu'un, c'était un appui qui... Il était sûr que sur certains, dans les combats qui étaient les plus essentiels pour lui, il trouverait René à ses côtés. Il y a une lettre de René à mon père sur l'homme révolté, qui est très significative dans ce domaine-là, et je crois que cette espèce d'amour de la liberté et la révolte, on peut dire innée, qu'ils avaient à l'intérieur comme ça, qui était inépuisable, hein. Ça les a beaucoup, beaucoup rapprochés. Ils étaient fraternels, tous les deux.
Continuons notre lecture avec un sublime poème d'amour intitulé « Lettera amorosa ». Illustré par Georges Braque, inspiré par le musicien Monteverdi, ce long chant en vers libre décrit deux amants que le temps a séparés. Partagé entre la tristesse de la perte et la certitude que l'amour est plus fort que tout, le poète s'adresse ici à la femme aimée dans un texte qui a des allures de roman. Je n'ai plus de fièvre ce matin. Ma tête est de nouveau claire et vacante, posée comme un rocher sur un verger à ton image. Le vent qui soufflait du nord hier fait tressaillir par endroits le flanc meurtri des arbres. Je sens que ce pays te doit une émotivité moins défiante et des yeux autres que ceux à travers lesquels il considérait toutes choses auparavant. Tu es parti, mais tu demeures dans l'inflexion des circonstances, puisque lui et moi avons mal. Pour te rassurer dans ma pensée, j'ai rompu avec les visiteurs éventuels, avec les besognes et la contradiction. Je me repose comme tu assures que je dois le faire. Je vais souvent à la montagne dormir. C'est alors qu'avec l'aide d'une nature à présent favorable, je m'évade des échardes enfoncées dans ma chair, vieux accidents, âpres tournois. Pourras-tu accepter contre toi un homme si haletant? Lunes et nuits, vous êtes un loup de velours noir, village sur la veillée de mon amour. Je voudrais me glisser dans une forêt où les plantes se refermeraient et s'éteindraient derrière nous, forêt nombre de fois centenaire, mais elle reste à semer. Mon éloge tournoie sur les boucles de ton front comme un épervier à bec droit. L'automne, le parc compte ses arbres bien distincts. Celui-ci est roux traditionnellement, cet autre fermant le chemin est une bouillie d'épines. Le rouge-gorge est arrivé, le gentil luthier des campagnes. Les gouttes de son chant s'égrènent sur le carreau de la fenêtre. Dans l'herbe de la pelouse grelottent de magiques assassinats d'insectes. Écoute, mais n'entends pas. Parfois j'imagine qu'il serait bon de se noyer à la surface d'un étang où nulle barque ne s'aventurerait. Ensuite, ressuscité dans le courant d'un vrai torrent où tes couleurs bouillonneraient. Il faut que craque ce qui enserre cette ville où tu te trouves retenu. Vent, vent, vent autour des troncs et sur les chaumes. J'ai levé les yeux sur les fenêtres de ta chambre. As-tu tout emporté? Ce n'est qu'un flocon qui fond sur ma paupière. L'aide saison où l'on croit regretter, où l'on projette alors qu'on s'avelit. L'air que je sens toujours prêt à manquer à la plupart des êtres, s'il te traverse, a une profusion et des loisirs étincelants. Je ris merveilleusement avec toi. Voilà une chance unique. Je ne puis être et ne veux vivre que dans l'espace et dans la liberté de mon amour. Nous ne sommes pas ensemble le produit d'une capitulation, ni le motif d'une servitude plus déprimante encore. Aussi menons-nous malicieusement l'un contre l'autre une guérilla sans reproche. Tu es plaisir, avec chaque vague séparée de ses suivantes. Enfin, tout à la fois charge, c'est la mer qui se fonde, qui s'invente. Tu es plaisir, corail de spasme. Qui n'a rêvé en flânant sur les boulevards des villes d'un monde qui, au lieu de commencer avec la parole, débuterait avec les intentions? Nos paroles sont lentes à nous parvenir, comme si elles contenaient, séparées, une sève suffisante pour rester close tout un hiver. Ou mieux, comme si à chaque extrémité de la silencieuse distance, se mettant en joue, il leur était interdit de s'élancer et de se joindre. Notre voix court de l'un à l'autre, mais chaque avenue, chaque trait, chaque fourré la tire à lui, la retient, l'interroge. Tout est prétexte à la ralentir. Souvent je ne parle que pour toi, afin que la terre m'oublie. Je viens de rentrer, j'ai longtemps marché. Tu es la continuelle. Je fais du feu, je m'assois dans le fauteuil de panacée. Dehors, le jour indolore se traîne, que les verges de saule renoncent à fustiger. Plus haut, il y a la mesure de la futaie que l'aboi des chiens et le cri des chasseurs déchirent. S'il n'y avait sur terre que nous, mon amour, nous serions sans complices et sans alliés. Avant-coureurs candides ou survivants hébétés, j'en trouve la porte de notre chambre. Y dorment nos jeux, placés par ta main même. Pourquoi le ciel se voûte-t-il? Il est des parcelles de lieux où l'âme rare subitement exulte. Alentour, ce n'est qu'espace indifférent. Du sol glacé, elle s'élève, déploie tel un champ sa fourrure pour protéger ce qui la bouleverse, l'ôter de la vue du froid. Pourquoi le champ de la blessure est-il de tous le plus prospère? Je souffre d'entendre les fontaines de ta route se partager la pomme des orages. Une clochette teinte sur la pente des mousses où tu t'assoupissais, mon ange du détour. Le sol des graviers nains était l'envers humide du long ciel. Les arbres, des danseurs intrépides. Ce n'est pas simple de rester hissé sur la vague du courage quand on suit du regard quelque oiseau volant au déclin du jour. Ma convoitise comique, mon vœu glacé, saisir ta tête comme un rapace à flanc d'abîme. Je t'avais maintes fois tenu sous la pluie des falaises. Merci d'être, sans jamais te casser, Iris, ma fleur de gravité. Tu élèves au bord des eaux des affections miraculeuses. Tu ne pèses pas sur les mourants que tu veilles. Tu éteins des plaies sur lesquelles le temps n'a pas d'action. Tu ne conduis pas à une maison consternante. Tu permets que toutes les fenêtres reflétées ne fassent qu'un seul visage de passion. Tu accompagnes le retour du jour sur les vertes avenues libres.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
De la mer, quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un abribus. Ne reste pas ici, on entend sonner l'Angélus. Le soleil est jauni, plus triste que le cirque russe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un engrenage. D'un verre de Campari, du bon vouloir ou de l'équipage. Paris est si petit quand on le regagne à la nage. Quelle aventure, quelle aventure. On flaire, on flaire, on flaire, la flamme singulière. On gagne, guerre, la guerre, la superbe. On reste, Dieu merci, à la merci de l'amour crasse, d'un simple démenti, d'une mauvaise vie, d'une mauvaise passe. Le silence est aussi pesant qu'un porte-avions qui passe. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un sacrifice, d'une mort à crédit, d'un préjugé et d'un préjudice. Le soleil s'enfuit comme un savon soudain qui glisse. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flâne. On flaire la flamme singulière. On gagne, on perd. On perd la gagne, la superbe. On reste, Dieu merci, à la merci d'un imbutal, du plafond décrépit qu'on observe à l'horizontale. Le soleil est parti, la neige tombe sur les dalles. Quelle aventure, quelle aventure. On reste, Dieu merci, à la merci d'un lampadaire, d'une douleur endormie, d'un chasse-esprit, d'un soir d'hiver. La vieillesse ennemie reste la seule pierre angulaire. Quelle aventure, quelle aventure. On flâne, on flaire. On flaire la flamme familière. On gagne, on perd. On perd la gagne, la superbe. Quelque part à Paris, au fin fond du bar d'un hôtel, dès la prochaine vie, je rêve de se rester fidèle. Quelle aventure.
Chaque cité était une grande famille que la peur unissait. Le chant des mains à l'œuvre et la vivante nuit du ciel l'illuminaient. Le pollen de l'esprit gardait sa part d'exil. Mais le présent perpétuel, le passé instantané, sous la fatigue maîtresse, otère les lys. Marche forcée au terme épars.
Voici maintenant Le Rempart de Brindille, un poème en prose qui parle de la poésie et de la place de l'homme dans l'univers. Le dessein de la poésie étant de nous rendre souverains en nous impersonnalisant, nous touchons, grâce au poème, à la plénitude de ce qui n'était qu'esquissé ou déformé par les vantardises de l'individu. Les poèmes sont des bouts d'existence incorruptibles que nous lançons à la gueule répugnante de la mort, mais assez haut pour que, ricochant sur elle, il tombe dans le monde nominateur de l'unité. Nous sommes déroutés et sans rêve. Mais il y a toujours une bougie qui danse dans notre main. Ainsi, l'ombre où nous entrons est notre sommeil futur sans cesse raccourci. Ne cherche pas les limites de la mer, tu les détiens. Elles te sont offertes au même instant que ta vie évaporée. Le sentiment, comme tu sais, est enfant de la matière. Il est son regard admirablement nuancé. Nous vivons collés à la poitrine d'une horloge qui, désemparée, regarde finir et commencer la course du soleil. Mais elle courbera le temps, liera la terre à nous, et cela est notre succès. Si la tempête en permanence brûle mes côtes, mon onde au large est profonde, complexe, prestigieuse. Je n'attends rien de fini, j'accepte de godiller entre deux dimensions inégales. Échapper à la honteuse contrainte du choix entre l'obéissance et la démence, esquiver l'abat de la hache sans cesse revenante du despote contre laquelle nous sommes sans moyen de protection, quoiqu'étant aux prises sans trêve, voilà notre rôle, notre destination et notre dandinement justifié. Il nous faut franchir la clôture du pire, faire la course périlleuse, encore chasser au-delà, tailler en pièces l'inique, enfin disparaître sans trop de pacotille sur soi. La vie bousillée est à ressaisir avec tout le doré du couchant et la promesse de l'éveil successivement. Et honneur à la mélancolie augmentée par l'été d'un seul jour, à un midi impétueux, à la mort. Tour à tour, coteaux luxuriants, rocs désolés, léger abri, tel est l'homme, le bel homme déconcertant. Disparu, l'élégance de l'ombre lui succède. Encore de l'espoir et encore des aphorismes dans « Le nu perdu » paru en 1971. Donne toujours plus que tu ne peux reprendre et oublie, telle est la voie sacrée. On ne contourne pas, on passe. Les routes qui ne promettent pas le pays de leur destination sont les routes aimées. La liberté ne se trouve dans le cœur de celui qui n'a cessé de la vouloir, de la rêver, l'a obtenue contre le crime. Qu'est-ce qui nous consolerait ? Désir d'un cœur dont le seuil ne se modifie pas. Nous ne sommes tués que par la vie. La mort est l'hôte. Elle délivre la maison de son enclos et la pousse à l'orée du bois. Sept ans plus tard, René Char est victime d'un grave accident cardiaque. Il n'a plus que 10 ans à vivre et il partage son temps entre l'Île-sur-Sorgue et Paris. Voici pour conclure des extraits de l'un de ses derniers recueils, Recherche de la base et du sommet, qui réunit des textes écrits depuis les années 40. Dans Impressions anciennes, René Char réaffirme la nécessité de la poésie. Dans le moment que nous vivons, je pense surtout à ceux qui sont aux prises avec cette hypnose certaine qui répand le climat d'une époque. L'espoir, ce ressasseur peu sûr, est vraiment le seul langage actif et le seul repoussoir susceptible d'être transformé en bon mouvement. Nous sommes tenus d'assurer que cet espoir n'est pas candeur. La poésie est la solitude sans distance, parmi l'affairement de tous, c'est-à-dire une solitude qui a le moyen de se confier. On est, à l'aube, l'ennemi d'aucun, excepté des bourreaux. Pour Hegel, la philosophie, du point de vue du bon sens, est le monde à l'envers. Pour quelques-uns, du point de vue de l'équité, la poésie est le monde à sa meilleure place. Même s'il est en proie à une nature pessimiste, celui qui accepte, de bon ou de mauvais gré, les perspectives du devenir, doit se convaincre que le surressort de ce pessimisme est l'espoir sans rupture, espoir que quelque chose d'imprévisible, où nous distinguerons une faveur, ou, à l'opposé, un hermétique maléfice, surgira, et que l'oppression sera momentanément renversée. La pensée du pire n'est-elle pas respect d'autrui ? Il semble que la poésie, par les voies qu'elle a suivies, par les épreuves qui l'ont rendue concrète, constitue le relais qui permet à l'être blessé de retrouver des forces neuves et de fraîches raisons. La poésie n'est que rarement glaneuse d'indulgence, instigatrice de petits méfaits de fantaisie. Son originalité ne s'égare pas dans une botte de paille. Le mot passe à travers l'individu, définit un état, illumine une séquence du monde matériel, propose aussi un autre état. Le poète ne force pas le réel, mais en libère une notion qu'il ne doit point laisser dans sa nudité autoritaire. Une intolérance démente nous ceinture. Son cheval de Troie est le mot « bonheur ». Et je crois cela mortel. Je parle, homme sans faute originelle, sur une terre présente. Je n'ai pas 1000 ans devant moi. Je ne m'exprime pas pour les hommes du lointain qui seront, comme on n'en pas douté, aussi malheureux que nous. J'en respecte la venue. On a coutume, en tentation, d'allonger l'ombre claire d'un grand idéal devant ce que nous nommons, par commodité, notre chemin. Mais ce trait sinueux n'a pas même le choix entre l'inondation, l'herbe folle et le feu. Pourtant, l'âge d'or promis ne mériterait ce nom qu'au présent, à peine plus. La perspective d'un paradis hilar détruit l'homme. Toute l'aventure humaine contredit cela, mais pour nous stimuler et non nous accabler. Comment délivrer la poésie de ses oppresseurs? La poésie qui est clarté, énigmatique et hâte d'accourir en les découvrant, les annule. Il nous faut apprendre à vivre sans linceul, à replacer à hauteur, à élargir le trottoir des villes, à fasciner la tentation, à pousser la parole nouvelle au premier rang pour en consolider l'évidence. Ce n'est pas un assaut que nous soutenons, c'est bien davantage. Une patiente imagination en armes nous introduit à cet état de refus incroyable. Nous sommes d'une lignée qui se sent à l'étroit dans des sommations strictement intellectuelles. L'hérésie secoue tôt la vaniteuse orthodoxie. Il est sillonné de volonté passagère, le poète, ce vieux nourricier, si semblable au coucou, le réaliste voilé, l'absolu fainéant. Le poète n'a pas de mission. À tout prendre, il a une tâche. Je n'ai jamais rien proposé qui, une fois l'euphorie passée, risquât de faire tomber de haut. Succomber est le risque, mais pour un édit lumineux qui puisse me contenir sans que je souffre de m'y trouver. Pourquoi le mot poète me traverse souvent? Pour qu'il y ait plus d'espace dans le plein et moins d'erreurs sur une identité mal révélée. Créer, s'exclure. Quel créateur ne meurt pas désespéré? Mais est-on désespéré si l'on est déchiré? Peut-être pas.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Manuel Couturier à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Bonne journée et à demain.